Chapitre 4 Vieilles connaissances. Nous sommes bien forcés de dire au lecteur ce que Monsieur de Pérolles venait faire dans la prison de Coquardas et Passepoil, car cet habile homme n'eut pas le temps d'exposer lui-même les motifs de sa présence. Nos deux braves devaient comparaître comme témoins devant la chambre ardente du Châtelet. Ce n'était pas le comte de Monsieur le prince de Gonzague. Pérolles avait charge de leur faire des propositions si éblouissantes que leur conscience n'y put tenir. 1000 pistoles à chacun d'un seul coup, espèce sonnante et payée d'avance, non pas même pour accuser Lagardère, mais pour dire seulement qu'il n'était pas aux environs de Quélus la nuit du meurtre. Dans l'idée de Gonzague, la négociation était d'autant plus sûre que Coquardas et Passepoil ne devaient pas être très pressés d'avouer leur présence en ce lieu. Voici maintenant comme quoi M. de Pérolles n'eut point le loisir de montrer ses talents diplomatiques. La tête goguenarde du petit marquis avait soulevé le pourpoint de Passepoil, tandis que Pérolles, occupé à observer les mouvements de nos deux braves, tournait le dos au tas de paille. Le petit marquis cligna de l'œil et fit un signe à ses alliés. Ceux-ci se rapprochèrent tout doucement. « À ce pas pur !» dit Coquardas en montrant du doigt l'ouverture du plafond. « C'est un peu leste de mettre deux gentilshommes dans un cachot si mal couvert !»« Plus on va, » fit observer Passepoil avec modération, « moins on respecte les convenances. »« Mes camarades !» s'écria Pérolles, qui prenait de l'inquiétude à les voir s'approcher ainsi, l'un à droite, l'autre à gauche. « Pas de mauvais tour. Si vous me forcez à tirer l'épée... »« Fi donc !» soupira Passepoil. « Tirez l'épée contre nous ?»« Des gens désarmés !» appuya Coquardas. Ils avançaient toujours. Néanmoins, Pérolles, avant d'appeler, ce qui eût rompu sa négociation, voulut joindre le geste à la parole. Il mit la main à la garde de son épée en disant « Qu'y a-t-il, voyons, mes enfants ? Vous avez essayé de vous évader par ce trou là-haut, en faisant la courte échelle, et vous n'avez pas pu. « Halte-là » s'interrompit-il. Un pas de plus et je dégaine. » Il y avait une autre main que la sienne à la garde de son épée. Cette autre main, blanchette et garnie de dentelles fripées, appartenait à Monsieur le marquis de Chaverny. Celui-ci était parvenu à sortir de sa cachette. Il se tenait debout derrière Pérolles. L'épée du factotum glissa tout à coup entre ses doigts et Chaverny, le saisissant au collet, lui mit la pointe sous la gorge. « Un mot et tu es mort, drôle !» dit-il à voix basse. L'écume vint aux lèvres de Pérolles, mais il se tut. Coquardas et Passepoil, à l'aide de leur cravate, le garrottèrent en moins de temps que nous n'en mettons à l'écrire. « Et maintenant ?» dit Coquardas au petit marquis. « Maintenant, » répliqua celui-ci, « toi à droite de la porte, ce bon garçon à gauche. Quand les deux gardiens vont entrer, les deux mains au nœud de la gorge. « Ils vont donc entrer ?» demanda Coquardas. « À vos postes seulement. Voici Monsieur de Pérolles qui va nous servir d'appôt. » Les deux braves coururent se coller à la muraille, l'un à droite, l'autre à gauche. Chaverny, la pointe de l'épée sous le menton de Pérolles, lui ordonna de crier à l'aide. Pérolles cria. Et tout aussitôt, les deux gardiens de se ruer dans le cachot. Passepoil eut le porte-clé. Coquardas eut l'autre. Tous deux râlèrent sourdement, puis se turent, étranglés à demi. Chaverny ferma la porte du cachot, tira des poches du porte-clé un paquet de cordes et leur fit à tous des menottes. « À ce pas pur !» lui dit Coquardas. « Je n'ai jamais vu de marquis aussi gentil que vous, non ?» Passepoil joignit ses félicitations plus calmes à celles de son noble ami. Mais Chaverny était pressé. « En besogne » s'écria-t-il. « Nous ne sommes pas encore sur le pavé de Paris. Gascon, mets le porte-clé nu comme un ver et revêt sa dépouille. Toi, l'ami, fais de même pour le gardien. » Coquardas et Passepoil se regardèrent. « Voici un cas qui m'embarrasse, » dit le premier en se grattant l'oreille. « Sans Dieu, je ne sais pas s'il convient à des gentilshommes. » « Je vais bien mettre l'habit du plus honteux maraud que je connaisse, moi, » s'écria Chaverny en arrachant le splendide pourpoint de Pérolles. « Mon noble ami, » risqua Passepoil, « hier nous avons endossé... » Coquardas l'interrompit d'un geste terrible. « La paix, Pécaire, » fit-il. « Je t'ordonne d'oublier cette circonstance pénible. D'ailleurs, c'était pour le service de loup petit Couquin. »« C'est encore pour son service aujourd'hui, » Cocardas poussa un profond soupir et dépouilla le porte-clés qui avait un baillon dans la bouche. Frère Passepoil en fit autant du gardien et la toilette de nos deux braves fut bientôt achevée. Certes, depuis le temps de Jules César, qui fut, dit-on, le premier fondateur de cette antique forteresse, jamais le Châtelet n'avait vu dans ses murs deux geôliers de plus galante mine. Chaverny, de son côté, avait passé le pourpoint de ce bon monsieur de Pérolles. « Mes enfants, dit-il, continuant le rôle de factotum, je me suis acquitté de ma commission auprès de ces deux misérables. Je vous prie de me faire la conduite jusqu'à la porte de la rue. « Ai-je un peu l'air d'un gardien ? » demanda frère Passepoil. « À s'y méprendre, » repartit le petit marquis. « Et donc ? » fit Cocardas junior sans prendre souci de cacher son humiliation. « Est-ce que je ressemble à un porte-clés ? » « Comme deux gouttes d'eau, » répondit Chaverny. « En route, j'ai mon message à porter. » Ils sortirent tous les trois du cachot, dont la porte fut refermée à double tour, sans oublier les verrous. Monsieur de Pérolles et les deux gardiens restèrent là, solidement attachés et bâillonnés. L'histoire ne dit pas les réflexions qu'ils firent dans ces conjectures pénibles et difficiles. Nos trois prisonniers, cependant, traversèrent le premier corridor sans encombre. Il était vide. « La tête un peu moins haute, Cocardas, mon ami, » dit Chaverny. « J'ai peur de tes scélérates de moustaches. »« San Dieu, » répondit le brave. « Vous me hacheriez menu comme chair à pâté, que vous ne pourriez m'enlever ma bonne mine. » « Ça ne mourra qu'avec nous, » ajouta frère Passepoil. Chaverny enfonça le bonnet de laine sur les oreilles du Gascon et lui apprit à tenir ses clés. Ils arrivaient à la porte du préau. Le préau et les cloîtres étaient pleins de monde. Il y avait grand remue-ménage au Châtelet, parce que monsieur le marquis de Ségré donnait à déjeuner à ses assesseurs au greffe en attendant la reprise de la séance. On voyait passer les plats couverts, les réchauds et les paniers de champagne qui venait du fameux cabaret du Vauquitette, fondé depuis 2 ans, sur la place même du Châtelet, par le cuisinier Lepreux. Chaverny, le feutre sur les yeux, passa le premier. « Mon ami, dit-il au portier du préau, vous avez ici près, au numéro 9, dans le corridor, 2 dangereux coquins. Soyez vigilants. » Le portier ôta son bonnet en grommelant. Cocardas et Passepoil traversèrent le préau sans encombre. Dans la salle des gardes, Chaverny se conduisit en curieux qui visite une prison. Il lorgna chaque objet et fit plusieurs questions idiotes avec beaucoup de sérieux. On lui montra le lit de camp où M. de Horn s'était reposé 10 minutes en compagnie de l'abbé de la Maîtrie, son ami, en sortant de la dernière audience. Cela parut l'intéresser vivement. Il n'y avait plus que la cour à traverser, mais au seuil de la cour, Cocardas junior faillit renverser un marmiton du Vauquitette, porteur d'un plat de blanc mangé. Notre brave lança un retentissant « Cap et des bioux !» qui fit retourner tout le monde. Frère Passepoil en frémit jusque dans la moelle de ses os. « L'ami, dit Chaverny tristement, cet enfant n'y a pas mis de malice, et tu pouvais te dispenser de blasphémer le nom de Dieu notre Seigneur. » Cocardas baissa l'oreille. Les archers pensèrent que c'était là un bien honnête jeune gentilhomme. « Je ne connaissais pas ce porte-clés gascon, » grommela le guichetier des gardes. « Du diable si les cadets ne se fourrent pas partout !» Le guichet était justement ouvert pour livrer passage à un superbe faisan rôti, pièce principale du déjeuner de monsieur le marquis de Ségré. Cocardas et Passepoil, ne pouvant plus modérer leur impatience, franchirent le seuil d'un bond. « Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! » cria Chaverny. Le guichetier s'élança et tomba foudroyé par le lourd paquet de clés que Cocardas junior lui mit en plein visage. Nos deux braves prirent en même temps leur course et disparurent au carrefour de la lanterne. Le carrosse qui avait amené M. de Pérolles était toujours à la porte. Chaverny reconnut la livrée de Gonzague. Il franchit le marchepied en continuant de crier à tue-tête. « Arrêtez-les, morbleu ! Ne voyez-vous pas qu'ils se sauvent ? Quand on se sauve, c'est qu'on a de mauvais desseins !» « Arrêtez-les ! Arrêtez-les !» Et, profitant du tumulte, il se pencha à l'autre portière et commanda « À l'hôtel, coquin, et grand train !» Les chevaux partirent au trot. Quand le carrosse fut engagé dans la rue Saint-Denis, Chaverny essuya son front baigné de sueur et se mit à rire en se tenant les côtes. Ce bon monsieur de Pérolles lui donnait non seulement la liberté, mais encore un carrosse pour se rendre sans fatigue au lieu de sa destination. C'était bien cette même chambre à l'ameublement sévère et triste où nous avons vu pour la première fois Madame la Princesse de Gonzague dans la matinée qui précéda la réunion du tribunal de famille. C'était bien le même deuil extérieur, l'autel tendu de noir, où se célébrait quotidiennement le sacrifice funèbre en mémoire du feu duc de Nevers, montrait toujours sa large croix blanche aux lueurs des 6 cierges allumés. Mais quelque chose était changé. Un élément de joie, timide encore et perceptible à peine, s'était glissé parmi ces aspects lugubres. Je ne sais quel sourire éclairait vaguement ce deuil. Il y avait des fleurs aux deux côtés de l'autel, et pourtant on n'était pas au premier jour de mai, fête de l'époux décédé. Les rideaux, ouverts à demi, laissaient passer un doux rayon de soleil d'automne. À la fenêtre, pendait une cage où babillait un gentil oiseau. Un oiseau que nous avons vu déjà et entendu à la fenêtre basse qui donnait sur la rue Saint-Honoré, au coin de la rue du Chantre. L'oiseau qui, naguère, égayait la solitude de cette charmante inconnue, dont l'existence mystérieuse empêchait de dormir Madame Balao, la Durand, la Guichard et toutes les commères du quartier du Palais-Royal. Il y avait du monde dans l'oratoire de Madame la Princesse, beaucoup de monde, bien qu'il fût encore grand matin. C'était d'abord une belle jeune fille qui dormait étendue sur un lit du jour. Son visage, aux contours exquis, restait un peu dans l'ombre, mais le rayon de soleil se jouait dans les masses opulentes de ses cheveux bruns, aux fauves et chatoyants reflets. Debout, auprès d'elle, se tenait la première camériste de la princesse, la bonne Madeleine Giraud, qui avait les mains jointes et les larmes aux yeux. Madeleine Giraud venait d'avouer à Madame de Gonzague que l'avertissement miraculeux trouvé dans le livre d'heures, à la page du Miserere, l'avertissement qui disait « Venez défendre votre fille » et qui rappelait après 20 ans la devise des rendez-vous heureux et des jeunes amours, la devise de Nevers, « J'y suis », avait été placée là par Madeleine elle-même, de complicité avec le bossu. La princesse l'avait embrassée. Madeleine était heureuse comme si son propre enfant eût été retrouvé. La princesse était assise à l'autre bout de la chambre. Deux femmes et un jeune garçon l'entouraient. Auprès d'elle étaient les feuilles éparses d'un manuscrit, avec la cassette qui avait dû les contenir. La cassette et le manuscrit d'Aurore. Ces lignes écrites dans l'ardent espoir qu'elle parviendrait un jour entre les mains d'une mère inconnue, mais adorée, étaient arrivées à leur adresse. La princesse les avait déjà parcourues. On le voyait bien à ses yeux rouges de bonnes et tendres larmes. Quant à la manière dont la cassette et le gentil oiseau avaient franchi le seuil de l'hôtel de Gonzague, point n'était besoin de le demander. Une des deux femmes était l'honnête Françoise Berrichon, et le jeune garçon, qui tortillait sa toque entre ses doigts d'un air malicieux et confus, répondait au nom de Jean-Marie. C'était le page d'Aurore, le bon enfant bavard et imprudent, qui avait entraîné sa grand-mère hors de son poste pour la livrer aux séductions des commères de la rue du Chantre. L'autre femme se tenait un peu à l'écart. Vous eussiez reconnu sous son voile le visage hardi et gracieux de Dona Cruz. Sur son visage fripon, il y avait en ce moment une émotion réelle et profonde. Dame Françoise Berrichon avait la parole. « Celui-là n'est pas mon fils, » disait-elle de sa plus mâle voix en montrant Jean-Marie. « C'est le fils de mon pauvre garçon. » Je peux bien dire à Madame la Princesse que mon Berrichon était une autre paire de manches. Il avait 5 pieds 6 pouces et du courage, car il est mort en soldat. Et vous étiez au service de Nevers, bonne femme ? Interrompit la princesse. Tous les Berrichons, répondit Françoise, de père en fils, depuis que le monde est monde. Mon mari était écuyer du duc Amaury, père du duc Philippe. Le père de mon mari, qui se nommait Guillaume Jean Nicolas Berrichon, « Mais votre fils, » interrompit la princesse, « ce fut lui qui m'apporta cette lettre au château de Quélus ?»« Oui, ma noble dame, ce fut lui. Et Dieu sait bien que toute sa vie, il s'est souvenu de cette soirée-là. Il avait rencontré, c'est lui qui m'en a fait le récit bien des fois, il avait rencontré dans la forêt dense une dame Marthe, votre ancienne duègne, qui s'était chargée de l'enfant. Dame Marthe le reconnut pour l'avoir vu au château de notre jeune duc. » quand elle apportait vos messages. Dame Marthe lui dit, « Il y a là-bas, au château de Quélus, quelqu'un qui sait tout. Si tu vois mademoiselle, dis-lui qu'elle est bien garde. » Berrichon fut pris par les soudards et délivré par la grâce de Dieu. C'était la première fois qu'il voyait ce chevalier de Lagardère dont on parlait tant. Il nous dit « Celui-là est beau comme le Saint-Michel Archange de l'église de Tarbes. » « Oui, » murmura la princesse qui rêvait. « Il est bien beau. »« Et brave !» poursuivit Dame Françoise qui s'animait. « Un lion !»« Un vrai lion !» voulut appuyer Jean-Marie. Mais Dame Françoise lui fit les gros yeux et Jean-Marie se tut. « Berrichon, mon pauvre garçon, nous rapporta donc cela, » poursuivit la bonne femme. Et comme quoi Nevers et ce Lagardère avaient rendez-vous pour se battre, et comme quoi ce Lagardère défendit Nevers pendant une demi-heure entière contre plus de 20 gredins, sauf le respect que je dois à Madame la Princesse, armés jusqu'aux dents. Aurore de Caylus lui fit signe de s'arrêter. Elle était faible contre ses navrants souvenirs. Ses yeux pleins de larmes se tournèrent vers la chapelle ardente. « Philippe, murmura-t-elle, mon mari bien-aimé. C'était hier. Les années ont passé comme des heures. La blessure de mon âme saigne et ne veut pas être guérie. » Il y eut un éclair dans l'âme de Dona Cruz qui regardait cette immense douleur avec admiration. Elle avait dans les veines ce sang brûlant qui fait battre le cœur plus vite et qui hausse l'âme jusqu'aux sentiments héroïques. Dame Françoise hocha la tête d'un mouvement maternel. « Le temps est le temps, » fit-elle. « Nous sommes tous mortels. » Il ne faut pas se faire de mal pour ce qui est passé. » Berrichon se disait, en tournant son chaperon, « Comme elle prêche, ma bonne femme de grand-mère !» Il y a donc, reprit Dame Françoise, que le chevalier de Lagardère vint au pays, voilà bientôt 5 ou 6 ans de cela, pour me demander si je voulais servir la fille du feu duc. Je dis oui tout de suite. Pourquoi ? Parce que Berrichon, mon fils, m'avait dit comme les choses s'étaient passées. Le duc mourant appela le chevalier par son nom et lui dit « Mon frère, mon frère !» La princesse appuya ses deux mains contre sa poitrine. « Et encore, » poursuivit Françoise, « tu seras le père de ma fille et tu me vengeras. » Berrichon n'a jamais menti, ma noble dame. D'ailleurs, quel intérêt aurait-il eu à mentir ? Nous partîmes, Jean-Marie et moi. Le chevalier de Lagardère trouvait que Mademoiselle Aurore était trop grandette pour demeurer seule avec lui. Et il voulait comme ça, interrompit Jean-Marie, que la demoiselle eût un page. Françoise haussa les épaules en souriant. « L'enfant est bavard, » dit-elle, « en vous demandant pardon, noble dame. Il y a donc que nous partîmes pour Madrid, qui est la capitale du pays espagnol. Ah, dame, les larmes me vinrent aux yeux quand je vis la pauvre enfant, c'est vrai. Tout le portrait de notre jeune seigneur. Mais Motus, il fallait se taire. Monsieur le chevalier n'entendait pas raison. Et pendant tout le temps que vous avez été avec eux, demanda la princesse dont la voix hésitait, cet homme, monsieur de Lagardère? Seigneur Dieu, noble dame, s'écria Françoise dont la vieille figure s'empourpra. Non, non, sur mon salut. Je dirais peut-être comme vous, car vous êtes mère. Mais voyez-vous, pendant 6 ans, j'ai appris à aimer monsieur le chevalier autant et plus que ce qui me reste de famille. Si une autre que vous avait eu l'air de soupçonner... Mais il faut me pardonner, s'interrompit-elle en faisant la révérence. Voilà que j'oublie devant qui je parle. C'est que celui-là est un saint, madame. C'est que votre fille était aussi bien gardée près de lui qu'elle l'eût été près de sa mère. C'était un respect, c'était une bonté, une tendresse si douce et si pure. Vous faites bien de défendre celui qui ne mérite pas d'être accusé, prononça froidement la princesse. Mais donnez-moi des détails. Ma fille vivait dans la retraite ? Seule, toujours seule. Trop seule, car elle en était triste. Et pourtant, si on m'avait cru... Que voulez-vous dire ? Demanda Aurore de Caylus. Dame Françoise jeta un regard de côté vers Dona Cruz, qui était toujours immobile. Écoutez donc, fit la bonne femme. Une fille qui chantait et qui dansait sur la Plaza Santa, ce n'était pas une belle et bonne société pour l'héritière d'un duc. La princesse se tourna vers Dona Cruz et vit une larme briller au long cil de sa paupière. « Vous n'aviez pas d'autres reproches à faire à votre maître ? » dit-elle. « Des reproches ? » se récria Dame Françoise. « Ceci n'est pas un reproche. D'ailleurs, la fillette ne venait pas souvent, et je m'arrangeais toujours pour surveiller. » C'est bien, bonne femme, interrompit la princesse. Je vous remercie. Retirez-vous. Vous et votre petit-fils, vous faites désormais partie de ma maison. À genoux, s'écria Françoise Berrichon en poussant rudement Jean-Marie. La princesse arrêta cet élan de reconnaissance et sur un signe d'elle, Madeleine Giraud emmena la vieille femme avec son héritier. Donna Cruz se dirigeait aussi vers la porte. « Où allez-vous, Flore ? » demanda la princesse. Donna Cruz pensa avoir mal entendu. La princesse reprit. « N'est-ce pas ainsi qu'elle vous appelle ? Venez, Flore, je veux vous embrasser. » Et comme la jeune fille n'obéissit pas assez vite, la princesse se leva et la prit entre ses bras. Donna Cruz sentit son visage baigné de larmes. « Elle vous aime !» murmurait la mère heureuse. « C'est écrit là, dans ces pages qui ne quitteront plus mon chevet. » Dans ces pages où elle a mis tout son cœur. Vous êtes sa gitanita, sa première amie. Plus heureuse que moi, vous l'avez vue enfant. Devait-elle être jolie? Flore, dites-moi cela. » Et sans lui laisser le temps de répondre, « Tout ce qu'elle aime, reprit-elle avec sa passion de mère, impétueuse et profonde, je veux l'aimer. Je t'aime, Flore, ma seconde fille. Embrasse-moi. Et toi, pourras-tu m'aimer? Si tu savais comme je suis heureuse, et comme je voudrais que la terre entière fût dans l'allégresse. Cet homme, entends-tu cela, Flore? Cet homme lui-même qui m'a pris le cœur de mon enfant? Eh bien, si elle le veut, je sens bien que je l'aimerais. »